Vous écoutez
RMC. RMC.
Ah, il est prêt à flamber la baraque.
7h-8h.
Votre maison.
Oh, ça, oh là là, cette maison, ce sera un château.
François Sorel.
Christian Pesset.
Voilà, bon week-end avec nous, c'est RMC, c'est le week-end des experts qui se poursuivent, c'est le bricolage, la maison, et c'est avec Christian Pesset.
Eh oui, je suis là, bonjour mon cher François, en pleine forme, vous avez l'air.
Bah écoutez, comme d'habitude, oui. Vous aussi, attendez.
On n'est jamais malade.
Bah écoutez, espérons que ça dure le plus longtemps possible,
oui.
Franchement. Christian Pesset, donc, notre expert maison. Vos questions, bricolage maison déco, 32-16, et tout à l'heure, Christian, on va s'intéresser au système de chauffage connecté, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans?
Est-ce que la connexion en matière de chauffage vaut le coup? Est-ce que c'est simplement une commande à distance? Parce que de ce côté-là, ça existe depuis des dizaines d'années. On pouvait commander son chauffage par téléphone avec un transmetteur. C'est un système un peu archaïque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc évidemment, il y a les assistants vocaux, il y a tout cela. Est-ce que on peut commander son chauffage, moduler, régler son chauffage, avoir aussi des informations, parce que pour les chauffagistes, c'est aussi très important. Finalement, ils reçoivent en direct des informations sur la maintenance. Voilà, on va parler de tout cela avec un spécialiste, Albert Bouchacha, qui est déjà venu d'ailleurs dans cette émission.
Et puis Raphaël Grably, vous le savez, notre expert numérique, qui en ce moment est un peu frustré puisque son émission sur la vie numérique saute régulièrement.
On s'est dit qu'il fallait lui remonter le moral.
Un peu quand même, vous savez qu'il déprime. De temps en temps, je le vois comme ça, errant dans les studios, dans les rédactions.
J'ai vu de la lumière.
Bonjour Raphaël.
Salut François. Salut. J'ai vu de la lumière, j'ai entendu qu'on parlait de choses connectées.
Alors. Et il s'est dit, voilà, tu t'es dit, il faut être là.
Je suis rentré.
C'est parfait, on est ravis de te retrouver et on t'écoutera tout à l'heure attentivement. On retrouvera aussi le coup de cœur, on parlera de la Fondation Habitat et Humanisme avec vous, Christian.
Très, très important.
Et puis, dans un instant, ça sera la cuisine. Mais, vous le savez, pour débuter ce week-end des experts, place à vos questions, bien évidemment. Et c'est parti, on attaque avec Marie. Oh Marie, bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bienvenue. Bonjour messieurs.
Bienvenue sur RMC Marie.
Racontez-nous ce qui vous arrive.
Alors voilà, c'est pour isoler un sous-sol qui est en ciment. On a un problème, c'est humide. Et alors on a émis un lino avec une plaque de, une feuille de plastique.
Voilà.
Parce que ça salissait le lino.
Ah oui.
Voilà,
attendez, je comprends pas. Vous avez quoi? Un sous-sol, un sol en béton, du lino et une feuille en plastique dessus?
Dessous.
Ah bah oui, non, on ne peut pas faire.
Ça salisse le joli lino. Voilà. Et alors, on voudrait isoler parce qu'il y a toujours cette condensation là.
Ah bah oui. Mais c'est la feuille plastique qui vous fait la condensation.
Et oui, mais quoi mettre comme produit?
Non mais attendez. C'est où? C'est en sous-sol?
Oui, c'est en sous-sol.
C'est en sous-sol. Pourquoi vous ne laissez pas le béton vous avez un sol en béton, c'est ça?
Oui, mais vous voyez, c'est une petite pièce qui va dans la salle de bain.
Oui.
Et c'est dans le sous-sol. Il y a le garage et ça continue. Il y a cette petite pièce-là qui est très humide.
Eh bien, elle est très humide parce qu'elle n'est pas assez ventilée ou parce qu'il y a des remontées capillaires. Mais les remontées capillaires, c'est l'humidité qui remonte le long des murs. Vous le verriez. Donc, ça serait plutôt, à mon avis, une question de ventilation. Enlevez votre lino, enlevez surtout votre feuille plastique là qui ne sert à rien qu'à favoriser la condensation. Puisque vous êtes en sous-sol et que ça donne sur une salle de bain, j'espère que votre salle de bain, elle est ventilée?
Oui, oui, il y a une grande fenêtre et puis ça tourne toute la journée, là, à l'ancienne, le petit rond qui tourne.
Oui, d'accord, mais bon, ça, pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait une entrée d'air. Hein,
oui, parce oui, il y en a une.
Bon,
oui,
donc,
il y en a une.
Mais il faut qu'il y ait une entrée d'air aussi dans cette pièce. Moi, oui, je ne m'embêterai pas, oui. je mettrai une peinture béton, une peinture de sol. Donc, comme ça peut être sympa, vous pouvez avoir une très jolie couleur.
D'accord.
Et puis, si vous ventilez correctement, vous allez voir que vous allez éliminer votre humidité. Et puis, bon, si c'est une sortie de salle de bain, il y a aussi une solution pour éviter que ce soit trop glissant. Une fois que vous avez mis votre peinture de sol et qu'elle commence à prendre, en faisant ça quand il fait plus de 15 degrés, parce que sinon ça va jamais bien prendre, vous saupoudrez un petit peu de sable, vous savez, sur la peinture et vous aurez quelque chose de, d'un peu grésé, on va dire, et qui peut être très sympa et qui effectivement ne risquera pas de glisser, que vous glissiez, surtout que ça empêchera que ça soit glissant quand vous sortirez de votre salle de bain.
D'accord. Voilà, et Marie. Si on voulait mettre du carrelage, il faudrait isoler comment ?
Pas de problème, mais il n'y a pas, a priori, sauf si vous avez des remontées par le sol, vous posez mais... votre carrelage, ou alors à ce moment-là, il faut faire une véritable étanchéité sous-sol, sous la chape. C'est un gros boulot, c'est à confier à un professionnel.
Ah d'accord.
Voilà, Marie.
Il y a pas un truc à base de résine qu'on mettrait.
La résine ne sera pas mieux que ne serait une peinture de sol. Moi, je préfère que vous mettiez une vraie peinture béton, une peinture comme on met dans les garages.
Parfait, Christian. Encore une fois, vous êtes éblouissant lorsque vous
Merci.
Répondez comme ça aux
Merci.
Dépotés, aux questions des auditeurs et surtout des auditrices.
Oui, n'est-ce pas? Oui, ça
vous stimule, hein, les auditrices.
Je fais des efforts.
Ah, je le vois bien.
Oui, bien sûr.
Je le vois bien. Sacré Christian, va. Ouais. Vous savez quoi? Il est temps maintenant de retrouver le conseil de l'expert de Christian PC.
RMC, votre maison.
Le conseil béton. De Christian PC.
Oh. Deuxième fois en plus. C'est le double effet.
Oui, double effet.
Pardon ?
C'est l'écho.
C'est ça. Christian, quel oui. matériau choisir pour son plan de travail de cuisine ?
Alors, vous savez, autrefois, ça, c'était simplement une paillasse hein, qui était généralement carrelée. Ça marchait très bien. Maintenant, ça a beaucoup évolué. En plus, dans les cuisines, c'est un élément considérable.
J'ai l'impression que ça intéresse Raphaël qui, d'un coup,
de cuisine.
A laissé tomber son téléphone et s'est dit « Ah, plan de cuisine, c'est bon, je dois changer ça à la maison, je vais m'intéresser,
non,
j'ai écouté Christian. »
Justement, on l'a changé il n'y a pas très longtemps et ça m'intéresse pour savoir si on a fait le
voilà,
bon choix.
Alors, qu'est-ce que tu as mis chez toi ?
Mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
Eh ben, bah, je suis sûr qu'il va retrouver quand je vais lui citer tout ça.
Mais alors, c'est super.
Bon, le classique, le moins cher, c'est le pincer. Alors, on va dire, c'est du panneau de particules hydrofuge, c'est-à-dire normalement qui résiste à l'humidité, qui va être stratifié. On parle donc de plan stratifié, c'est-à-dire que vous avez deux couches de stratifié, c'est-à-dire, on va dire, c'est une forme de plastique.
Hein. Oui, c'est le plastique qui recouvre
voilà,
en fait,
avec le champ, etc. Alors, ça peut être de toutes les couleurs, c'est sympa. La seule chose, c'est que ça n'est quand même que du panneau de particules. Et que s'il y a une fuite qui se produit parce que le champ se décolle, parce que vous avez une fissure qui s'est produite, eh ben le risque c'est que le panneau de particules y gonfle et donc c'est plus très élégant. Le bois ça reste aussi le matériau noble, plus facile à réparer s'il y a des rayures, des éclats. On utilise des essences de feuillus, le chêne, le frêne, le noyer. Il s'agit presque toujours du lamellé-collé. Vous savez, on voit qu'il y a comme des petites lames qui sont collées les unes à côté des autres. C'est très rarement du massif, ça peut l'être, hein, mais ça risque de travailler. Donc le lamellé-collé est parfaitement stable. Il y a aussi une poussée aujourd'hui, c'est vers le bambou, parce que le bambou, c'est en principe, c'est en bois de boue d'ailleurs, et donc ça c'est extrêmement solide, extrêmement résistant. Alors pour le bois, on ne vernit plus. On vernissait autrefois, mais le vernis finissait par s'en aller. Donc aujourd'hui, on huile les plans de travail en bois. L'inox, ça reste un must, c'est un petit côté professionnel, c'est plutôt bien. Surtout, c'est très hygiénique, là, c'est impeccable. Le bois, ça ne l'est pas tellement. L'inox,
le bois, en fait, est un peu poreux, c'est ça.
Tout à fait.
Il faut traiter d'ailleurs le bois. Pardon. Il faut le traiter d'ailleurs ce bois comme ça.
Oui, c'est soit on le vernit, soit on le huile.
Hein, on le huile.
En l'huilant, ça, évidemment, ça fait un effet repoussoir à l'eau.
Raphaël, t'as une idée de ce que tu as, alors, ou pas, depuis tout à l'heure?
Alors, je suis pas du tout là-dessus, hein. Moi, je suis plus sur de la pierre, je crois.
On va utiliser résine et matériaux de synthèse, apparentés. Ça a été la grande nouveauté, mais à la fin du 20e siècle. Le gros avantage, c'est la diversité des couleurs et des textures. Attention, ça devient mat et ça finit malgré tout par se tacher. Et on a du mal à enlever les taches sur ces résines. Le verre, c'est hyper design, mais alors attention, le verre, si votre eau, elle est calcaire, vous êtes sans arrêt en train de le nettoyer. En revanche, c'est parfaitement hygiénique parce que c'est non pour eux. Il y a de la porcelaine aussi, classiquement, qui peut exister. La pierre naturelle,
fragile,
alors...
C'est pas fragile, la porcelaine ?
Non, au contraire, c'est hyper...
Ouais, mais si on fait tomber un truc...
Ah bah voilà, c'est ça, c'est le risque, là, de choc. On en voit pratiquement pas. Hein. La pierre naturelle, notamment le granit, le marbre, c'est évidemment un grand classique, c'est très hygiénique. hygiéniques. Tendance déco aux pierres noires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est noir maintenant. Hein. Et le problème, là encore, c'est le calcaire. Mais c'est pareil pour les robinetteries. Les robinetteries sont noires mat aujourd'hui. Je dis que c'est une pure connerie, pardonnez-moi l'expression. Mais c'est absurde parce que le moindre lot est toujours un peu calcaire et vous êtes sans arrêt en train de le nettoyer. Alors, dernier venu sur le marché, le quartz, c'est peut-être ce que Raphaël a. Le quartz, c'est très résistant aux rayures et aux chocs, c'est très beau. Mais ce n'est en fait que de la pierre reconstituée de synthèse à base de silice cristalline.
Je ne vais pas venir dans ta cuisine. Hein.
Alors, le problème, c'est que c'est très bien, hein. C'est très bien, c'est hygiénique, a priori, etc.
Ça, c'est bien.
Mais des doutes ont été émis sur la dangerosité du produit. La DGCCRF est intervenue, des experts ont été mandatés par les tribunaux, donc la seule chose, c'est qu'on ne sait pas très bien l'effet à long terme, et surtout, il ne faut pas le percer, il ne faut pas le scier, c'est-à-dire il ne faut pas s'amuser soi-même, par exemple, à encastrer un évier, à encastrer un appareil de cuisson, parce que les matériaux, je vais vous dire, les juges précisent, je cite, que le risque pour la santé peut être d'autant moins écarté qu'il est à ce jour démontré que les salariés de différents pays qui façonnent et découpent ces plaques de quartz ont présenté des troubles graves et pour certains sont atteints de silicose. Donc oui, c'est bien, mais à condition soi-même de ne pas le scier, de ne pas le percer. Donc à long terme, moi je suis pas fan. Là encore, je vais me faire un certain nombre d'amis parmi les producteurs de ce type de produits, mais voilà, il y a des doutes. Voilà, bon, pour l'ensemble.
Moi qui voulais passer ma soirée à scier mon plan de travail encore.
Alors, attendez.
Je vais devoir trouver autre chose à faire. Hein.
On se fait pas scier. On
se fait obligé de te rabattre sur Netflix.
Voilà. on se fait pas scier en les perçant.
Voilà.
On se ça, fait
c'est,
pas.
C'est digne de François, cette blague quand même. Hein.
Alors attention, Raphaël. Hein. Fais attention à toi quand même. C'est vrai, tu trouves que moi je suis comme ça de ce niveau. Je trouve que c'est même un niveau supérieur.
C'est un peu supérieur.
C'était
à toi.
Pas mal.
C'est un
petit peu supérieur. Là, franchement, c'était pas mal. Merci beaucoup, Christian. On revient dans un instant. Et Raphaël va faire moins le malin parce que depuis tout à l'heure, il galège, comme on dit, dans le sud de la France. Parce que là, on va écouter ton expertise en matière de chauffage connecté. Est-ce que tu as des chauffages connectés à la maison, tiens, chez toi?
Alors, je n'ai pas installé. J'ai pu en tester et j'ai pu notamment tester les applis parce que ce qui est important aussi, c'est les applis, l'interface. Il y a la partie plus technique dont Christian va parler, mais il y a aussi la partie interactive qui est très importante aussi.
Voilà, est-ce qu'un système de chauffage connecté vaut le coup dans la maison? On en parle avec Raphaël et nos invités. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Le chauffage connecté, donc, Christian.
Oui.
Avec nos invités.
Ben oui, le chauffage, on commence à le mettre pratiquement dans toutes les régions. Et nous avons avec nous Albert Bouchoucha, spécialiste de la question, fondateur du site Domotizi. Vous êtes créateur d'intelligence artificielle, peut-être, ou d'application de l'intelligence artificielle.
D'intérieur connecté.
Voilà, d'intérieur connecté. Vous êtes administrateur, à la Fédération française de la domotique et vous faites partie de la Fédération française du bâtiment. Grand Paris, voilà, tout a été dit. Nous sommes aussi avec Raphaël Gravely qui va pouvoir intervenir, éminent spécialiste aussi des questions. Oui. Donc,
n'en faites pas trop quand même.
J'en fais pas trop, mais bon, il est en face de moi, alors je fais attention parce que
on ne sait jamais.
Il
peut vous envoyer un chauffage dans la figure.
Oui, puis m'envoyer un téléphone aussi, ça peut faire mal. Albert,
ils sont presque aussi gros maintenant.
Oui, c'est incroyable. Albert, est-ce que la domotique en la matière, est-ce que donc la connexion, d'abord c'est intéressant pour le chauffage, et est-ce que ça peut marcher pour tous les systèmes de chauffage, parce que l'électricité, il y a longtemps qu'on pilote très facilement des convecteurs ou des radiateurs électriques, mais quand on passe à la chaudière, que sa chaudière d'ailleurs est parfois un petit peu ancienne, quand on est avec une pompe à chaleur, est-ce que ça peut fonctionner?
Alors pour tous les types de chauffage, aujourd'hui on arrive à les connecter, à les piloter grâce à des modules. Ouais. Donc ça passe de la chaudière, ça passe du chauffage au sol, électrique, les pompes à chaleur, les systèmes de réversibles, clim et chauffage. Tout type de chauffage, aujourd'hui, on arrive à les piloter.
Y compris le chauffage collectif
Alors, le chauffage collectif, on arrive à le connecter, mais par élément. C'est-à-dire là, on va plutôt mettre des têtes thermostatiques connectées.
D'accord.
Par élément de chauffage, donc par pièce. Alors, et là, on va pouvoir réguler, mais pas... c'est-à-dire, on aura toujours... l'inertie du chauffage collectif.
Alors rappelons, tête thermostatique, ça veut dire robinet thermostatique. Hein.
Oui, pardon, oui, robinet thermostatique.
Oui, parce que
et un élément jargon, un, on va un radiateur, perdre, là, par radiateur. Ouais. Donc là, on va pas aller chercher la chaudière de l'immeuble, mais on va chercher chaque élément de chauffage.
Alors, moi, ma question, c'est est-ce que cette facilité, parce que j'imagine qu'on peut donc commander tout ça depuis son smartphone.
Alors oui, c'est le.
Ou sa tablette.
Alors soit le smartphone, soit la tablette, soit sa montre connectée.
Oui.
Et encore le téléphone, mais plus vers des systèmes IP, ce qu'on appelle IP, donc plus de RTC. Puisque ça n'existe plus. Enfin, ça s'élimine de. Oui. Mais c'est pas alors par la ligne téléphonique, c'est plutôt par le réseau Internet.
Oui. Voilà, on rentre là dans des détails. Hein. C'est-à-dire que maintenant, l'IP, c'est tout ce qui passe via Internet.
C'est ça.
C'est ça. C'est la ça. Voix, la télévision,
donc,
tout coup, pas sur IP aujourd'hui.
Donc, avec des applis.
Mais... Avec des applications qu'on met sur le smartphone. Alors des applications qui sont de plus en plus ludiques, de plus en plus faciles à utiliser. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est que justement la personne qui va l'utiliser soit de vraiment que l'application soit très simple.
Moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est de ne pas jouer avec son chauffage, parce que vos systèmes là, c'est quand même, on n'est pas loin du jeu vidéo, quoi. Hein, donc un chauffage, ça a une inertie de fonctionnement. Une chaudière, c'est pas fait pour changer sans arrêt de cycle. Vous êtes d'accord qu'il faut quand même être raisonnable là.
Ah bah c'est tout le principe d'un chauffage, c'est que ceux qui n'ont pas de système connecté, ce qui se passe, c'est que justement cette inertie est compliquée à gérer. Alors l'inertie, pour ceux qui comprennent pas, c'est le temps de chauffe d'une pièce. Donc c'est par rapport à sa surface, son volume, etc. Et donc généralement, ce que font les gens, dès qu'il y a une différence de température, ils montent, ils descendent, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si on veut faire des économies.
Mais justement, ces applications, elles sont de plus en plus performantes et donc elles prennent en compte maintenant certaines la météo. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois géolocaliser la personne, savoir est-ce que je suis dans mon domicile ou pas. On va pouvoir dire, évidemment, si on part en congé, si on ne sera pas là.
Bien sûr.
Et en fonction de la météo, donc justement, ça va prévenir cette inertie. Enfin, c'est le but à l'arrivée.
C'est l'avantage, c'est-à-dire que si par exemple, déjà on est dans des systèmes bien connectés, donc ce qui est très bien, ce qu'on en installe beaucoup.
On va dire évoluer, quoi.
Voilà, évoluer, puisque là on tient compte de la température extérieure.
Quitte à investir, vaut mieux peut-être investir
complètement là-dedans.
Alors, je vais revenir deux secondes sur le fait de ne pas jouer sans arrêt avec. Alors il y a des systèmes pour lesquels c'est pas très grave de jouer avec. Un radiateur, un convecteur par exemple, il y en a de moins en moins, mais un convecteur c'est pas très grave, il marche pas, etc. Mais les planchers chauffants électriques, par exemple, si vous vous mettez à jouer sans arrêt en disant tiens il fait froid, je vais remettre un peu de chauffage, c'est une catastrophe. À ce moment-là, on bouffe de l'électricité comme c'est pas.
Alors le système connecté lui tient compte de ce qu'on appelle la pente de chauffe, donc c'est-à-dire l'inertie, et ça c'est calculé bien en amont. Et lorsqu'on demande ce qu'on appelle une température de consigne, c'est-à-dire la température qu'on veut atteindre, à ce moment-là, le chauffage se met bien en amont en route pour atteindre la température de consigne demandée. Donc tout ça c'est pris en compte dans nos programmation, bien sûr, par rapport à l'instant de la journée, si c'est la nuit, le jour, etc.
Alors, je discutais l'autre jour aussi avec des gens du SINASA, vous savez, c'est le syndicat de la maintenance des systèmes de chauffage, et qui me disait que de plus en plus aussi, grâce à la connexion, le chauffagiste peut être informé en direct, en temps réel, des problèmes qui peuvent intervenir sur la chaudière, d'une panne éventuelle, en donnant les conseils d'une fuite, etc. Vous confirmez que
c'est ça?
Mais est-ce que les artisans sont armés pour ce type de connexion?
C'est le combat, entre guillemets, journalier qu'on fait, on forme les gens tous les jours et on les pousse à se former justement, que ce soit dans le monde de la plomberie, de l'électricité, dans tous les corps d'État
c'est essentiel,
ça demande
parce que...
bien sûr.
Ouais, d'ailleurs, il y a un sujet qui est assez intéressant là-dessus, c'est la porte d'entrée vers tout cet univers du chauffage connecté, parce que ça peut paraître compliqué, on parle de matériel qui est lourd, d'installation.
Ouais.
Donc par où est-ce que vous conseillez d'entrer si on veut du chauffage connecté? Est-ce qu'on va dans une grande enseigne? Est-ce qu'on passe directement par les fabricants ou ceux qui créent les applications?
Ou par le chauffagiste,
par Nest de Google, par Netatmo, par qui on passe en fait? C'est quoi la porte d'entrée pour ça?
Alors, il y a deux mondes, il y a le monde des bricoleurs, on va dire, des autodidactes, ceux qui veulent s'installer eux-mêmes leur système, c'est possible, bien sûr. Tous les systèmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qu'on appelle plug and play, comme Nest, Netatmo, qu'on retrouve dans les grandes anciennes de grandes surfaces, qui sont très performantes. Le seul souci qu'il faut bien prévenir, c'est ce fameux protocole de communication. Et que oui. Si après on veut faire autre chose, qu'on fasse pas des usines à gaz et se retrouver avec, se retrouver avec 5-6 applications sur son téléphone, parce qu'après on part dans justement le non ludique, la non facilité, tout ce qu'on voulait pas avant et tout ce qu'on veut effacer. Ouais.
Ça marche.
Donc faut rester simple.
Ouais, ça marche avec les assistants vocaux.
Oui, bien sûr.
Je peux dire,
ça marche avec Google, avec Siri, avec Alexa, bien entendu. On dit par exemple Alexa, mets le salon à 22 degrés ou monte un peu la température. Ok Google, baisse le chauffage dans la chambre.
Ouais. Alors moi je suis généralement réservé avec tout ça parce que je trouve qu'on n'est pas loin de l'intrusion dans la vie privée. Hein, mais je trouve que c'est vraiment formidable. Je peux le dire, c'est vraiment formidable après avoir fait cette réserve. C'est vraiment formidable par rapport au thermostat d'ambiance qu'on a dans nos maisons et qui sont ingérables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis un programme automatique, soit on l'a fait assis, c'est très très difficile à régler.
Alors que là, c'est
un avantage
très important pour nous, c'est qu'à tout moment, l'être humain peut prendre la main sur le système. À tout moment, même si vous avez fait un système automatique à distance ou pas, à tout moment, l'être humain peut soit arrêter, soit monter, soit descendre sa température. Et ça, c'est très important dans tous les systèmes.
Raphaël, on a parlé des assistants vocaux. Est-ce que c'est pas encore une intrusion dans la vie privée, le fait de demander
Il y a eu notamment des petits sujets récemment avec certaines, en fait, toutes les grandes entreprises américaines qui écoutaient certaines des conversations. Maintenant, elles le font moins parce qu'elles se sont faites un peu taper sur les doigts. Après, le rapport bénéfice-risque pour la vie privée est pas très intéressant. Sincèrement, je déconseille de faire son choix en fonction des assistants vocaux compatibles. Ouais, parce que franchement, autant les interfaces, c'est très important, autant la compatibilité avec un assistant vocal pour régler la température, c'est quand même extrêmement gadget, je trouve. Donc sincèrement,
c'est
pour moi,
c'est
du confort, voire du gadget, je trouve. Alors, en tout cas, ça doit pas être un critère de choix pour moi.
Il faut penser aussi aux personnes âgées. Il faut penser aussi aux personnes à mobilité réduite.
Oui, et qui peuvent effectivement facilement intervenir.
Pour ces cas-là, je suis d'accord.
On parle aussi pas mal de capteurs qui pourraient être dans la maison et qui justement régulent la température et puis détectent aussi la présence des gens ou pas. On parle aussi de la géolocalisation.
Et l'humidité même, en fonction de l'humidité, ça va pas
être même. Humidité, température, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une pièce, lorsqu'il y a deux ou trois personnes dans une pièce, c'est pas pareil, donc on tient compte de ça. On tient compte de la température extérieure, de la régulation, et tout ça se fait de façon automatique grâce aux détecteurs qui sont installés.
Il y a déjà longtemps, par exemple, qu'il y a des radiateurs électriques qui se coupent lorsqu'une fenêtre est ouverte.
Une fenêtre s'ouvre, pour les économies d'énergie.
Ça se retrouve aussi
c'est une fonction de base.
Oui, une fonction de base, mais c'est quand même assez
formidable. Maintenant, on a ça même dans tous les bureaux. Tous les bureaux, la clim se coupe dès qu'on ouvre la fenêtre.
Exactement, bien sûr.
Ça coûte combien? Parce que c'est pas le tout. J'ai une maison,
étude bien précise pour essayer. Après, ça va dépendre quel type de chauffage, bien sûr, si c'est électrique,
c'est
gaz, etc.
Mais imaginons une maison avec une chaudière, par exemple.
Ça démarre une tête thermostatique, par exemple, sur le marché, ça vaut 100 euros, entre 80.
Ça, c'est pour les radiateurs.
Pour les radiateurs. Pour un radiateur électrique, vous avez deux types de chauffage. En fait, vous avez le radiateur qui dit fil pilote.
Oui,
donc là,
on
donne des ordres. Voilà,
confort,
économie, etc. Et donc là, c'est des modules qui valent à peu près 100, 120 euros. Et vous avez donc par radiateur.
Par radiateur,
bien sûr.
Et c'est pas anodin si on a dit radiateur quand même.
D'accord, mais après, on va parler des économies que ça fait.
Oui.
Parce que c'est ça qui est important.
Oui.
Et puis vous avez tout ce qui est chaudière. Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu des packs, parce que là, il y a un thermostat qui est livré avec. Donc en fait, il y a un thermostat et un contacteur. Et là, on tourne autour de 300-350 euros le pack. Bon, alors après, il y a la fameuse partie installation. Mm-hmm. Où là, alors bien entendu, il est préférable de faire appel à un installateur. Moi, pour ma part, par exemple, je suis certifié par AFNOR parce que voilà, j'ai été certifié en tant qu'installateur conseiller. Après, il y a des installateurs qui savent, d'autres qui savent moins. Donc, vérifier que l'installateur soit bien son métier.
Raphaël, tu disais tout à l'heure que tu n'as pas de chauffage connecté, mais tu avais testé des choses. Est-ce qu'il y a des systèmes qui t'ont plus séduit que d'autres?
J'en ai parlé en début d'émission, mais vous allez peut-être me faire d'autres suggestions. C'est vrai que les deux grandes marques, alors c'est mon biais un peu très tech, c'est Nest, qui est la filiale de Google, et Netatmo. qui était une boîte française, qui est notamment compatible avec
Homekit. Qui a été racheté par Legrand d'ailleurs.
Qui a été racheté par Legrand, donc qui prend une ampleur absolument énorme, et qui est compatible avec Homekit d'Apple, ce qui peut être intéressant parce qu'on a d'un côté l'univers Apple, de l'autre un peu l'univers Google. Et quand vous parliez d'unité pour pas créer d'usine à gaz, c'est important ça aussi pour créer des systèmes compatibles entre eux, vérifier est-ce que c'est compatible HomeKit, et là je m'engage vers Apple, ou plus Google. Voilà.
Et c'est ça qui va un peu décider le système, c'est que si vous êtes déjà si déjà vous gérez peut-être vos volets, ou si déjà vous avez une alarme, etc., déjà rester dans la même, on va dire, le même protocole. Ça, c'est très important.
Et là, il n'y a que vous, les spécialistes, qui pouvez le dire, parce que
c'est écrit sur la boîte. Hein,
c'est écrit, voilà.
Les protocoles, faut avoir la boîte,
c'est compatible.
Non, mais c'est
généralement, aujourd'hui, on a les trois, on a Siri, Alexa, Google, c'est devenu.
Est-ce que tout ça, c'est un surcoût important ou pas?
Bah voilà, je vous ai. Moi je trouve pas, parce que alors il y a un coût, il y a un investissement, on va dire, d'installation bien sûr, mais il y a aussi les économies que ça fait. Et là on parle de 25%, ça c'est sûr, sur des économies de chauffage, et on va jusqu'à 40% dans certains cas. Et je dis toujours, bien sûr, si on est bien isolé,
parce que c'est l'isolation.
On peut mettre le meilleur système au monde, si on n'est pas isolé, ça.
Il y a aucune prime, aucun avantage particulier par rapport au.
Alors sur la petite partie, on va dire, de programmation. Oui. Cette partie-là peut être prise en compte par les crédits d'impôt.
D'accord, et les thermostats d'ambiance, il y en a.
Et thermostats d'ambiance, il y en a, exactement.
Merci beaucoup.
Avec
merci
plaisir.
Merci Albert Bouchacha.
Bouchoucha.
Voilà. Merci Albert, quoi.
Voilà.
Allez, ça va.
Et merci à Raphaël Grady.
Avec plaisir.
Et à notre expert numérique. Christian, pour terminer ce rendez-vous maison, on revient dans un instant. Oui. Auditeur, et puis vous nous parlerez de votre coup de cœur. C'est la Fondation Habitat et Humanisme. A tout de suite, c'est RMC.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, et c'est la maison, vous le savez, on a encore quelques minutes à passer ensemble avec Christian Pessé. Et avant de retrouver votre coup de cœur, Christian, on accueille Guy qui est avec nous au 32-16. Bonjour Guy.
Bonjour Guy.
Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à la maison.
C'est bien.
Eh ben écoutez,
bienvenue sur RMC.
Vous êtes à Châteauroux, Guy, hein, c'est ça?
Oui, voilà.
Alors, votre problème, c'est quoi?
Eh bien, c'est des... bruit de pâté.
Oui.
Alors, je vous explique. J'ai une maison sur deux étages.
Oui.
Au départ, le rez-de-chaussée était l'atelier d'un peintre. Lorsque mes parents ont acheté cette maison, il y avait déjà existant un premier étage qui était occupé.
Oui.
Par la suite, c'est ma sœur qui y a demeuré. Et mes parents ont fait, au rez-de-chaussée, c'était l'atelier d'un peintre.
Oui,
cet atelier cet atelier était sur terre-plein.
Oui.
Et nous avons une poutre, une grosse poutre au milieu de la façade qui fait 11,50 m.
Vous me prenez des notes, Christian,
parce que je
souhaiterais, pour Guy, avoir une réponse circonstanciée dans un
instant. Donc vous avez une poutre et directement le plancher dessus, c'est ça?
Oui, et cette poutre fait 40 par 40.
Oui.
D'où un vide d'air entre les deux de 40 cm. Parce que lorsque nous avons fait l'appartement du bas, donc on a décaissé le terre-plein pour avoir 2,50 m sous la poutre. Ils ont fait un plafond en brique suspendu, et ça passe sous la poutre.
Oui.
Voilà.
Ouais, et donc, vous avez des bruits, mais votre plancher, il est fixé sur quoi?
Ben, sur des lambourdes. Hein.
D'accord. Donc, la problématique, je veux dire quelle elle est, c'est que certainement qu'il a été fixé directement sur les lambourdes. Il a été cloué directement sur les lambourdes. Donc, il grince parce qu'il craque parce qu'il n'y a pas de bande résiliente, c'est-à-dire de bande d'amortissement entre les lambourdes. Ben voilà. Ben, faut simplement démonter votre parquet, remonter votre parquet ou le changer. Mais j'ai pas de solution. Sinon, mettez une moquette de 3 cm, j'exagère, mais très épaisse au-dessus. Mais j'ai pas d'autre solution.
C'est ce qui m'a été dit par...
Ben voilà.
Oui. Donc, et puis voilà,
deux solutions. Alors vous pouvez aussi poser une épaisseur d'isolant thermique ou acoustique entre donc votre plancher actuel, un panneautage, vous remettez un plancher en panneau au-dessus et vous aurez donc une forme d'isolation. Mais le plus simple, ça serait de déposer le parquet, mettre des bandes résilientes et reposer donc le parquet ou un autre, un nouveau parquet.
Voilà.
Traditionnel.
Bon, mais Christian, encore une fois, vous avez été, vous savez quoi?
Merci.
Non, mais franchement, j'ai des paillettes dans les yeux quand je vous écoute, Christian.
Merci.
Non, mais c'est vrai, franchement. Ouais. Mais quel talent à l'état brut.
Vous voyez tout le monde qu'on a le matin, hein, quand même.
Christian Marteau, je vais vous appeler.
Merci.
Ne me remerciez pas, surtout. Christian, on va terminer ce rendez-vous dédié à la maison avec votre coup de cœur de ce samedi matin.
Oui, mon coup de cœur, c'est pour l'action de la Fondation et de l'association Habitat et Humanisme. On en voit des spots à la télé ces derniers temps. Et surtout pour l'action de Bernard Devers, qui est à l'origine du mouvement que j'avais invité, je crois, à deux reprises dans cette émission, mais il y a déjà plusieurs années. Alors, Habitat Humanisme, c'est quoi? C'est une fondation et une association qui sont attachées depuis 1985, alors à loger des familles à faible revenu, tout en donnant confiance aux propriétaires et bailleurs qui peuvent être inquiets du risque de non-paiement des loyers et de dégradation de leurs biens. Alors, à l'origine de la démarche, je vais citer Habitat Humanisme, qui est pensée non comme une association caritative, mais comme une entreprise à caractère social qui réconcilie l'économique et le social, l'humain et l'urbain. Je trouve que c'est une bonne définition. Comment ça marche? Eh bien, Habitat et Humanisme assure entre autres la prise en charge intégrale de la gestion de votre logement, l'encaissement des loyers, l'établissement des quittances, les aides administratives, la garantie des loyers donc pour le propriétaire et celle du risque de dégradation avec la remise en état des biens loués à la sortie du locataire. Et pour la remise à niveau des biens anciens qui peuvent être mis en location, vous avez par exemple un appartement ancien qui peut être mis en location, eh bien Habitat et Humanisme se charge des démarches auprès de l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, le montage des dossiers, le suivi des travaux de réhabilitation. Tout cela dans le cadre d'une fiscalité avantageuse pour les bailleurs, pour ceux qui possèdent les appartements, et des loyers modérés pour les locataires. Je trouve que c'est vraiment admirable, c'est digne de respect. Pour en savoir plus, habitat-humanisme.org. Vous aurez toutes les informations, que vous soyez propriétaire d'un logement recherchant donc ce type d'opération ou que vous soyez en recherche d'un logement à loyer modéré.
Vous savez, Christian, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission justement sur les aides au logement.
Voilà. Hein, oui, mais ça, il faut attendre. Là, il va falloir attendre la fin de l'année pour avoir véritablement. On a déjà des pistes, mais véritablement.
Quelles sont les pistes qui sont en ce moment?
Les pistes globalement dans.
Discuter, parce que évidemment, c'est le gouvernement qui décide ça.
La piste localement, bon, elle est connue. Hein, c'est le remplacement notamment du crédit d'impôt par un subventionnement direct. Et là, c'est la grosse bagarre. Ça va l'être jusqu'à la fin de l'année, jusque tant que soit votée définitivement la loi de finances.
Très bien, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Christian PC, vous le savez, chaque samedi sur RMC, il est là entre 7h et 8h. Christian, à samedi.
À samedi prochain.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.